Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Daniel Defer. Ce soir, Michel Foucault.
Bonsoir Daniel Defer.
Bonsoir.
La fin de vos études, mai 68, la participation à la gauche prolétarienne, la thèse de sociologie, les débuts de l'université de Vincennes, tous ces moments politiques et intellectuels, vous les traversez tandis que vous avez rencontré Michel Foucault en 1960 et qu'il est devenu votre compagnon. Alors j'aimerais lire ce que vous avez dit de cette rencontre, enfin de l'impression qu'il vous a faite lorsque vous l'avez vue en 1960, à l'occasion de l'édition des Cahiers de Lerne. Foucault avait le look d'un professeur allemand, un manteau anthracite à col de velours noir, un chapeau sur sa prochaine calvitie, et cette mèche qu'il entortillait sur son crâne. Mais le rapport qu'il entretenait avec l'un de ses étudiants allemands de Hambourg, d'où lui-même arrivait, m'avait profondément séduit. Un commentaire, Daniel Defer.
Oui, c'est vrai que la qualité relationnelle de Foucault est quelque chose d'assez exceptionnel. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont connu et qui ont écrit sur cette relation disent la même chose, que ce soit le livre de Mathieu Lindon, Ce qu'aimer veut dire, ou le livre d'Hervé Guibert, qui n'a pas été pour moi une grande réjouissance, mais bon, j'étais quand même très touché par le drame qu'Hervé, qui était un ami très proche, vivait. Enfin bon, ils ont tous été fascinés par la qualité relationnelle de Foucault. C'est vrai que Foucault n'essayait pas de profiter de son prestige, de l'avantage, pour obtenir des faveurs, ce que d'autres faisaient. Hein. Et Foucault laissait toujours la plus totale liberté à tout le monde. Et au fond, on venait à lui, lui ne faisait jamais d'approche sauvage. Et ça, c'était quand même assez merveilleux. Quelqu'un qui vous laisse faire vos choix, qui vous écoute, qui est attentif, qui même vous aide à vous-même à vous comprendre. Et ça, c'était quand même une qualité. Et j'avais senti ça immédiatement auprès de ce jeune homme, Jürgen. J'en reparle dans le bouquin, parce que ce soir-là, le premier soir où j'ai rencontré Foucault, donc nous sommes sortis avec Roland Barthes, Robert Mosy, Andy Boite et tout ça. Et moi, j'avais trouvé que les relations de Roland Barthes, en particulier, étaient assez déplaisantes avec des gens plus jeunes que lui.
Pourquoi ? Parce que il y avait de la condescendance, ou pourquoi ? Un mépris intellectuel ou...
Peut-être, je ne sais pas si c'était le mépris intellectuel, il y avait une espèce de... Ben, si on reconnaissait son prestige, il attendait un petit peu qu'on l'accompagne de tendresse, je ne sais pas vraiment, il attendait un peu, il y avait une attente un peu forte, alors que Foucault laissait les gens dans leur totale liberté. Et ça, j'avais trouvé ça très, très frappant, la différence entre Foucault et même les autres amis, au point que ce soir-là, ce jeune Allemand avait dit à Foucault, et ça, Foucault me l'a dit des années plus tard, quand je lui avais raconté, j'avais gardé un très mauvais souvenir de cette première rencontre et que j'avais failli ne pas le revoir. Et il m'avait dit que son jeune ami allemand, Jürgen, était rentré aussi, et que était tout à fait hétéro. Jürgen lui avait dit, écoute, ce milieu est odieux, fais de moi ce que tu veux. Ce qui prouvait bien qu'il avait trouvé aussi que la qualité relationnelle qu'instituait Foucault était rare.
Michel Foucault avait 10 ans de plus que vous.
Oui, 11 ans exactement, oui. Et c'était jeune, moi j'en avais 23, il en avait 34. C'était jeune. Et j'avais toujours eu, je vous ai dit que mon père, je l'avais trouvé trop âgé, donc j'avais quand même toujours eu le désir d'un aîné, et que c'était parfait.
Et vous commencez à vivre avec lui quand ?
Je pense entre au début de 63, jusqu'à sa mort.
Dans les entretiens accordés à Éric Favreau et Philippe Artière, vous dites que ce n'était pas évident de vivre en couple vis-à-vis des voisins.
Oui, c'est une chose, si vous voulez, qui s'est constituée ces dernières années, d'affirmer que l'on vit en couple. J'avais été très frappé quand, au début de Aide, de voir que beaucoup de volontaires de l'association Aide venaient en couple. Souvent, l'un était malade ou il venait parce que le compagnon était malade. Et tout ça, et que beaucoup vivaient en couple. Or, en 1960, moi, je connaissais pas tellement de couples d'hommes ou de femmes. Nous fréquentions surtout les couples hétéros, et que la vie en couple était à la fois discrète quand elle était et pas facile à affronter dans la quotidienneté. Je me rappelle, Foucault était assez provocant. Je me rappelle que lorsque nous avons commencé à vivre ensemble, nous sommes allés faire des achats au bon marché. Et Foucault était un peu provocant. Et étalait un peu à l'égard des vendeuses qu'il s'agissait, j'allais dire, d'un trousseau. Mais en même temps, moi, j'étais extrêmement gêné. Je savais pas. Alors que autant j'assumais ma sexualité assez aisément, autant cette espèce de d'étalage, avait au moins une dizaine de vendeuses qui venaient tous voir les deux garçons
qui s'installaient,
des têtes d'oreiller, je sais pas quoi. C'était plutôt gênant, au point que Foucault après comme il avait compris que je ne supportais pas très bien ces relations, si bien que par hasard on se retrouvait ensemble dans une même boutique du quartier, il me faisait une communion. Ah, vous habitez le quartier? Oh, quelle surprise! Il se moquait beaucoup de ma gêne des années précédentes.
Et ça a duré même dans les années 70, lorsque vous étiez installé rue de Vaugirard, ou c'est le début, ça?
Oui, on l'a senti au tout début, oui. Oui. Par exemple, une chose très drôle, c'est que le concierge que nous avions à l'époque, un couple, un vieux monsieur, une vieille dame...
Dans cet immeuble-là,
dans cet
là où
immeuble-là,
nous sommes.
Nous habitions donc une suite de trois petits appartements réunis. Donc il y avait trois portes. Le concierge faisait exprès de ne pas savoir où habitait chacun. Nous avions chacun notre porte. Et elle faisait exprès d'envoyer les gens qui allaient chez Foucault chez moi et vice-versa. C'était arrivé à l'épisode très, très drôle. Quand Jacques Almira, le jeune écrivain, a apporté son manuscrit à Foucault, naturellement, la concierge l'avait envoyé à la mauvaise porte. Je lui dis non, ce n'est pas ici. Il retourne chez le concierge, tu lui dis, ici, l'autre porte. J'ouvre l'autre porte et je lui dis, ce n'est pas ici, je vous l'ai dit. Et il retourne chez le concierge, qui a parfaitement compris le message la troisième fois, et il revient à la bonne porte. Et à ce moment-là, je lui dis, Foucault, voilà, il me dit, non, tu vas ouvrir. Et j'ouvre la porte, je dis, oui, c'est ici. Mais Jacques Almira a très bien compris le message, mais surtout le concierge aussi, je crois, qui a cessé à partir des trois voyages, c'était en plus le jour de Noël, ça avait bien dérangé. Mais c'est pour vous dire que le concierge faisait exprès de ne... d'introduire la confusion. Donc c'est vrai que c'était difficile, et lorsque j'avais dit à Simone Signoret, je suis frappé par la quantité de couples qu'il y a aujourd'hui, donc dans les années 85, par là, au moment de la création de Aide, 84, 85, et Simone Signoret m'avait dit, avec cette immense gentillesse qu'il y avait toujours, mais Michel et vous y avez été pour quelque chose.
Daniel Defer, j'ai envie de vous poser une question qui me vient autant de la lecture de vos entretiens que, qui m'est venue aussi en lisant le livre de Mathieu Lindon. Pourquoi est-ce le mot garçon et non le mot homme qui est utilisé lorsqu'un homme vous plaît? Lorsque vous rencontrez quelqu'un dans le métro, vous racontez dans vos entretiens, vous prenez le métro, vous rencontrez un garçon qui... a une bonne connaissance, je crois, d'une association de lutte contre le sida. Et c'est un garçon, et c'est pas, vous dites pas homme.
Ah non, ça c'est pas dans le métro, ça c'est dans, c'est quand je prends le bateau de Londres que je rencontre un garçon qui appartient au Gamel Cells Twice, qui est la première association de lutte contre le sida. Oui, non, mais parce que il devait avoir 20 et quelques années. Donc, pour moi, c'était un jeune homme. Et c'est vrai que le mot garçon doit avoir une charge érotique que je n'ai pas... vous savez, les garçons, alors, dans le milieu des prisons, un garçon, c'est un homme bien. fiable.
Fiable. Prix,
c'est pas une balance, c'est une valeur virile, c'est une notion éthique. Mmh. Et je veux dire que dans le milieu des prisons, enfin bon, mais je pense que j'employais le mot déjà avant, mais c'est vrai que dans le GIP, on avait appris un peu, c'est un garçon, quelqu'un sur qui
quelqu'un
on peut compter.
Mmh.
Oui, oui. Donc c'est une expression positive, ça ne désigne pas seulement un âge. C'est pas un petit garçon, j'ai jamais eu de goût pour les petits garçons. C'est un jeune homme, mais oui. En même temps, c'est quelqu'un qui a des valeurs éthiques fiables.
D'accord.
J'allais dire viril, mais ce serait sexiste.
Vous évoquez le GIP Daniel Defer, donc vous en avez parlé hier soir. Vous pouvez rappeler en quoi a consisté très pratiquement votre engagement. Donc, il s'agissait de faire répondre à des questionnaires. Les prisonniers à des questions que beaucoup, qu'on ne se posait même pas, sur
oui.
les conditions de vie des prisonniers.
Tout à fait. Alors, on a voulu, et ça c'était l'idée de Foucault, au départ l'idée était une commission d'enquête, mais comment faire une commission d'enquête? Il y avait deux possibilités. On allait se présenter, toc toc toc, monsieur le directeur de la prison, vous m'ouvrez la prison, je fais une enquête, au nom de quoi? Bon, normalement ce serait aux parlementaires de les faire, bon. Et on avait une autre approche qui était clandestine, faire entrer des questionnaires et les faire remplir par les détenus eux-mêmes. Et
alors, les faire entrer comment?
Alors, clandestinement, il fallait créer des complicités avec des personnels de prison, assistantes sociales, éducateurs, surveillants.
Et la famille?
Les familles n'avaient aucune possibilité
de donner un
de communiquer. Les familles n'avaient pas le droit de parler de la prison lors des parloirs. Si on parlait de la prison, le parloir était arrêté. Donc les familles ne savaient rien de ce qui se passait en prison. Alors les anciens savaient, mais souvent les anciens n'aimaient pas en parler. C'est humiliant. Hein, c'est comme, j'ai pas comparé à la déportation, mais les déportés ont mis très longtemps à parler de tout ce qu'ils ont subi. Donc il y a un interdit, tellement on a été humilié pour communiquer cette expérience. Et pendant qu'on la vit, on ne peut pas la communiquer. Alors il y aurait les avocats, mais souvent les avocats ne savent pas tout.
Ils ne savent pas tout parce que là aussi les entretiens sont écoutés.
Alors non, ils pourraient savoir, mais ils ont à s'occuper de la défense. Et quand on a été condamné, on n'a plus d'avocat, je crois qu'on a encore une visite d'avocat, mais on n'a plus, donc les questions de la vie quotidienne en prison, bon... Nous étions partis de l'expérience des détenus politiques, qui sont plutôt du milieu bourgeois, et qui ressentent très fortement le côté crasseux, humiliant de la prison. Donc d'emblée, eux, ils parlent de cette expérience crasseuse. Mais les détenus de droit commun... Ce dont il nous parlait quand on a pu communiquer, c'est le fait qu'il n'en sort jamais. Et c'est quand même la question qui est actuellement discutée, hein, avec quel est le bilan qu'on fait des incarcérations excessives. Et les gens nous disaient, quand on a été en prison, on a un casier judiciaire, la peine suivante est aggravée, on a de plus en plus de mal à se sortir de la délinquance parce qu'on est de plus en plus puni. Donc, véritablement, le véritable enjeu pour l'étude du droit commun, c'est comment sortir de ce destin. Et moi, je raconte dans ce bouquin l'émotion très forte que j'ai eue à Nancy, lorsqu'il y a eu la révolte de Nancy. Nous avons fait, avec Jean-Marie Domnat et Gilles Deleuze, un meeting à Nancy, et il y avait tellement d'anciens détenus qui voulaient enfin prendre la parole, qui voulaient parler de leur expérience de la prison. On avait vraiment débloqué la parole. C'était entrer dans le champ politique. Et ils voulaient témoigner. Et ils commencent à témoigner, et presque tous racontent qu'ils sont de la DAS. Ce sont des enfants qui sont orphelins ou abandonnés ou retirés à leurs parents. Ce sont des enfants sans famille. Et c'est finalement leur destin dont ils veulent parler. Et ce n'est pas simplement des conditions d'incarcération. Et c'est un destin dont la prison ne les sort pas. Et ça, c'était pour moi bouleversant. Je vous ai raconté l'expérience de ma mère. Ma mère était de l'assistance publique, mais elle s'en est sortie parce que... Mais tous ces gens-là nous expliquaient que leur drame avait commencé là. Et là, j'ai senti véritablement que si je m'étais engagé dans l'histoire des prisons, c'était à mon insu pour quelque chose de beaucoup plus profond que le simple engagement politique. C'était quelque chose d'assez existentiel. C'était, au fond, comme après quand j'écris Aide, c'était encore quelque chose de vital.
Daniel Defer, qu'est-ce que vous découvrez d'autre sur les prisonniers, sur leurs conditions de vie, dont vous ne vous doutiez pas ?
Alors, beaucoup de choses, on ne savait rien sur les prisons. On ne savait rien. Par exemple, qu'il y avait des prisons dans les prisons, qu'il y avait des mitards, qu'il y a dans les prisons un tribunal punitif, que le directeur et les gardiens peuvent condamner un détenu à aller dans une prison intérieure à la prison, où les conditions sont encore pires. Et lorsqu'il y a eu la révolte de Toul, nous avions publié un questionnaire que nous avions reçu, on avait hésité à le publier. Foucault avait dit, bon, on n'a pas de moyen de l'accréditer, mais après tout, les autres questionnaires, on y croit, on publie aussi celui-là.
Où ils étaient publiés ?
Alors, nous avons publié ces questionnaires, d'abord chez Champs Libres, qui était une maison d'édition un peu anard, et qui nous ont virés quand ils ont découvert que nous étions Mao. Alors nous avons été publiés après chez Gallimard. Et à Champs Libres, Gérard Guégan nous avait accueillis avec Deleuze, mais eux, ils étaient proches de Debord et ils nous ont virés. Bon, c'est pas grave. Ces brochures viennent d'être rééditées d'ailleurs. Philippe Artière les a rééditées chez Vertical.
Chez Vertical, oui.
Et... Donc nous découvrions cela, ces mitards. Et alors, nous, dans un questionnaire, nous découvrons qu'un garçon, terme de la prison, comme je vous le disais, avait été attaché presque 8 jours, sur une tôle, un lit de tôle, un peu comme ces lits d'hôpitaux de chirurgie, vous voyez, enfin bon. Une tôle avec un trou pour ses besoins. Il avait été attaché 8 jours, là, dans une salle, sans rien, on n'y croyait même pas, on le publie, et c'est vrai. La révolte de Toul révèle que tout ça se passait dans les prisons, et que, en fait, depuis l'origine, les prisons sont non réformables. Foucault l'a vu dans « Surveiller, punir », dès 1825, on a fait le constat qu'on ne peut pas réformer les prisons. On est actuellement en train de faire une loi sur l'incarcération, mais on ne peut pas réformer ce milieu. Il n'y a ni volonté, ni moyen, ni savoir. Et alors, on voulait quand même que les détenus aient la parole et fassent entrer tous ces scandales dans le champ politique.
Et vous dites qu'il n'y a pas de volonté pour réformer. Est-ce que c'est parce que la société n'a pas d'empathie pour les prisonniers parce que ça fait trop peur ?
Alors, pas d'empathie. Je ne sais même pas si c'est la peur. Je pense que ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et à chaque fois qu'on calcule combien ça coûtera, le coût de la pénalité est également très élevé. On ne le calcule pas.
Oui.
Le coût de la répression est très élevé. Actuellement, il y a des gens qui font des calculs sur le coût de la répression de la toxicomanie. L'argent dépensé pour la lutte de la toxicomanie est plus important que tout ce qu'on pourrait faire pour soutenir les toxicomanes. Je veux dire, le coût de la répression... Alors, c'est vrai, c'est les économistes et libéraux qui ont été les premiers à analyser le coût de la répression. Mais le coût de la répression, c'est une chose, mais de la matérialité de la répression, la manière dont on détruit les gens, dont on les humilie. Comment pouvez-vous que les gens puissent avoir quelque respect pour une société qui les a traités comme cela ? Comment pouvez-vous respecter la vie d'autrui quand on a abîmé la vôtre à ce point-là ? Là, il y a quand même quelque chose de considérable qu'il faut affronter. Ça, on l'a fait avec le GIP. Le résultat, ça a été des révoltes, des petites réformes. Mais quand on voit le livre du docteur Vasseur, on voit bien que les réformes n'ont rien entamé. Bon, les gens ont eu la télévision, ils ont eu la presse, ils ont eu un peu d'amélioration. Mais globalement, les changements sont extrêmement difficiles. Donc, c'est l'usage qu'on fait de l'incarcération qu'il faut réfléchir.
Le livre de Véronique Vasseur, c'est les années 2000, début des années 2000.
Oui.
Elle était médecin-chef à la santé.
C'est ça. Ouais. Et ça n'avait pas beaucoup changé par rapport à l'histoire du GIP.
Et comment, Daniel Defer, le GIP s'est arrêté. Et vous, avec les prisons, votre histoire avec les prisons et les prisonniers s'est arrêtée.
Oui, alors, il y a une chose, c'est que nous voulions que ce soit les prisonniers eux-mêmes qui prennent en main leur destin, c'était les acteurs politiques. Et ça s'est passé d'une certaine façon. Il y a eu un certain nombre d'hommes, surtout quelques femmes, mais surtout des hommes, qui avaient été dans les centrales, qui avaient eu des longues peines, et qui ont vraiment voulu, parce que en centrale, on travaille, il y a des ateliers. Donc il y a une espèce d'habitude d'atelier, on peut syndiquer, enfin vous voyez, il y a un peu le monde de l'usine quelque part qui est transféré dans le monde des centrales. Donc ils ont eu l'idée de s'organiser un peu comme un syndicat de détenus. Et Serge Livrozet, qui est devenu écrivain, éditeur, a initié le comité d'action des prisonniers, qui était le premier syndicat en France d'anciens détenus et de détenus. Je crois qu'ils ont été un peu victimes du prestige des intellectuels qui avaient initié le mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un journal. Et au lieu de continuer à être un mouvement au quotidien qui publie dans la presse quotidienne, dans la grande presse, ils ont voulu faire leur journal. Et donc, une fois par mois, ils publiaient tout ce qui se passait dans les prisons. Mais quand vous entamez une grève de la faim, si on le fait savoir au bout d'un mois, c'est risqué. Donc bientôt, on ne s'appuie plus sur vous. Et je pense qu'en voulant un peu trop avoir une activité intellectuelle, et non plus une activité militante, mais c'est sans doute très difficile, ils se sont un petit peu étiolés en très peu de temps. Mais donc nous, on n'avait pas de raison. Ils voulaient que ce soit un mouvement d'anciens détenus. Et ils nous faisaient comprendre que nous n'étions pas des anciens détenus.
Alors Michel Foucault a publié « Surveiller et punir » en 1975.
Qu'il a fait d'ailleurs, parce qu'il y avait ce bruit dans les prisons, des surveillants, des acteurs de la pénitentiaire. Ah, mais attention, les intellectuels, ils vous utilisent. Vous savez, si Foucault s'occupe de vous, c'est pour publier des livres. Tout
comment
ça.
Vous l'avez su, ça?
Et
comment
ça, vous... ça nous ouais. Dit, ouais. Les détenus nous le disaient, ouais. Que c'est ce qu'on leur disait à l'intérieur de la prison. Donc, Foucault avait fini son livre, mais il a attendu un peu. Avant de le publier, d'ailleurs, on vient de publier La Société Punitive, qui est un de ses cours qu'il avait fait un ou deux ans avant la publication de Surveiller et Punir, qui est déjà un livre sur la prison, un peu différent de Surveiller et Punir, mais enfin, il a quand même travaillé 3 ou 4 ans sur toute l'histoire de ces institutions pénitentiaires, et il a un peu décalé, que ce n'est pas, et puis là, on a fait un livre très historique, que ce ne soit pas, et encore ce matin, j'entendais qu'on le citait à propos de la réforme qui est en cours, il n'a pas voulu que ce soit trop particulier à l'actualité, pour ne pas que les détenus croient que ça avait été fait pour les utiliser, quoi. C'était vraiment une réflexion sur une problématisation de l'incarcération.
Au début des années 80, Michel Foucault tombe malade. Ce que vous voyez, vous, c'est un amaigrissement. Est-ce que vous avez, à partir de quand vous avez entendu parler du sida, et comment dans votre tête l'idée est chassée, revient et de nouveau chassée, que Michel Foucault pourrait avoir le sida?
Alors, c'est pas seulement dans ma tête. Oui. Je sais pas quand on commence à entendre parler du sida par nos amis américains. Foucault va régulièrement aux États-Unis.
Il enseigne à Berkeley,
puis dans d'autres universités, à New York. Moi-même, j'y vais assez régulièrement. Donc, on connaît par nos amis américains cette épidémie. Et qu'on appelle à ce moment-là un cancer gay. Foucault ironise sur cette expression, ironie qui a été répercutée par Hervé Guibert et reprise en apostrophe par Pivot sans qu'ils aient compris ni l'un ni l'autre. Foucault dit un cancer gay, ce serait trop beau. C'est-à-dire un cancer qui est un dérèglement cellulaire. Si ça n'atteignait que les homosexuels, ça prouverait que l'homosexualité est naturelle. Et alors que dirait l'Église? C'est pour ça que Foucault en rigole, on dit ce serait trop beau. Et Hervé Guibert et Pivot ont compris ça comme de la dénégation. Mais non, c'est l'épistémologie médicale. Hein, si c'est un cancer, c'est un dérèglement cellulaire. Comment ça peut-il être lié à l'homosexualité? Bon, ce serait une biologisation de l'homosexualité. Oui, oui. Donc, c'est ça que veut dire Foucault. Mm. Et donc, on est informé de cette notion de cancer gay par les Américains, parce qu'en France, on en parle très peu. Et moi, je sais qu'en... En 82, je suis à peu près sûr que c'est en 82, je vais à Berkeley J'habite à San Francisco et je vais à Berkeley déjeuner chez Paul Rabineau, un ami de Foucault, et j'emmène un anthropologue américain qui faisait un stage d'anthropologie médicale à l'hôpital général de San Francisco. Et à l'hôpital général de San Francisco, on lui avait dit, tiens, tu veux voir la nouvelle maladie. Donc, il habitait San Francisco, il l'avait encore jamais vu. On lui dit, tu veux voir la nouvelle maladie, on le fait entrer dans une chambre, et il voit un drap blanc, et sous le drap blanc, une masse qui bouge. Et quand il me raconte l'histoire, je conduis la petite coccinelle sur le pont d'Auckland, et quand il me raconte ça, je pense immédiatement à Elephant Man, un film que tout le monde avait vu à l'époque, où on a une morphologie complètement en mouvement. Et je pense que c'est une maladie qui déforme le corps. Et je dis à ce garçon, ben alors, c'est une maladie qui déforme le corps. Et il me dit, moi aussi, j'ai vu Elephant Man, j'ai pensé la même chose que toi. Et les infirmières rigolent, elle lui dit, mais non, il est en train de faire l'amour avec son copain. Et lui, il dit, mais vous les laissez faire. Et les infirmières lui disent, mais qu'est-ce qu'on a d'autre à lui proposer?
Donc, la mort est...
Il n'y a pas de solution médicale. Mmh. Et là, moi, ça me frappe. Je sens quand même le désarroi total de la médecine. On ne sait pas quoi faire. Il y a l'amour, bon... solution palliatif. Donc ça me frappe beaucoup. Et bon, on en parle avec Foucault, tout ça. Et je pense que Foucault, lui aussi, a dû recevoir pas mal d'informations. Il est très probable que quand il a commencé à être fatigué, amaigri, fin 83, il y a songé. Je pense qu'il avait dû discuter même avec des gens aux États-Unis, au-delà même de ce qu'il a dû me communiquer. En décembre 83, je sais que nous sommes tous les deux convaincus que c'est... Enfin, convaincus. Nous avons une forte appréhension que ce soit ça. Mais on lui fait un traitement de Bactrim en 84, janvier 84, et il est en mesure de reprendre son cours au Collège de France qu'il n'avait pensé ne pas pouvoir faire. Il assure son cours, il finit ses deux derniers livres, et on pense donc, puisque la maladie s'arrête, c'est donc pas le sida. Donc il l'écrit à un de ses amis, je croyais, mais c'est pas ça. Donc on est certain, et quand il est hospitalisé, aucun médecin ne lui a donné de diagnostic, et à moi non plus. Quand je pose la question à son médecin, le médecin me dit, et ça j'avais trouvé ça assez choquant, ça a été pour moi une blessure et le point de départ de la création de Haine, si c'était ça Daniel, je vous aurais examiné. Et quand j'ai dit ça à Foucault, j'ai senti la panique. Que moi, je n'avais pas cette panique parce que j'avais confiance dans ce que me disait le médecin. Alors, la défense des médecins, c'était, il n'a pas demandé de diagnostic, nous savions qu'il n'y avait pas de solution, nous avions compris que son angoisse, c'était qu'est-ce qu'il me reste comme temps pour finir mon travail. Les médecins lui ont aménagé le maximum de sérénité, si on peut dire, si j'ose dire, pour finir son travail.
Merci Daniel Defer.
C'était À Voix Nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Daniel Defer. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Yves Lehor. Réalisation, Laetitia Coya. Coordination, Sandrine Trainer. Demain, suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Daniel Defer.